Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2, épisode 14. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
T'es en forme aujourd'hui ?
Ben oui, parce que c'est une grosse semaine.
Chaque fois je commence par cette question, mais c'est vrai que là on a une grosse semaine. C'est presque la semaine qui pourrait être.
De toute façon, je te réponds en forme même si je suis pas en forme.
Oui, je sais, je sais, j'ai vu ça.
Voilà.
Mais c'est une semaine qu'on aurait pu appeler parce qu'il y a que des films en R cette semaine, j'ai l'impression.
Vous pouvez dire
ou bien comme le film de la Chabat.
C'est exactement c'est ça que je faisais référence.
Ok, donc il y a.
C'était comme ça dans la bande-annonce.
Ah oui.
Ils disaient genre, vous allez voir, mais vous pouvez dire.
D'accord, voilà. Une bande-annonce typique à la Chabat, du coup. On va parler de quatre films cette semaine. Roma, Ralph 2.0 ou Ralph Breaks the Internet, ça c'est en anglais. Une affaire de famille et Rémi sans famille. Donc il est question de R et il est question de famille aussi cette semaine. Il n'y a pas Fast and Furious, mais ça aurait pu quand même, hein, puisque c'est la famille. Et oui, comme vous l'avez remarqué aussi, il y a un film qui n'est pas au cinéma mais qui est sur Netflix. Je dis pas au cinéma, je sais que dans certains pays il sort sur certains écrans.
Chez nous
aussi.
Et oui.
C'était en quel cinéma qu'on peut aller voir ce film, Roma?
Pendant deux semaines, il sera en exclu au Palace à Bruxelles et puis il va sortir dans quelques cinémas en Flandre. Aucune info pour la Wallonie.
Ben voilà.
Mais je sais que certains exploitants, certains cinémas sont assez hostiles.
À Netflix,
et donc c'est pour ça qu'ils ne le sortent pas. Mais bon, voilà.
Donc,
il sera en salle chez nous, profitez-en.
Roma, le fameux film de Alfonso Cuarón, qui avait été diffusé à l'occasion du Festival de Venise, où tu étais.
Oui,
tu étais tout à fait. Et donc, tu as eu l'occasion de voir Jolis.
Et je l'ai même revu.
Et tu l'as même revu pour l'occasion. Donc, on va en parler. Ralph 2, ben, donc, c'est la suite.
Et j'irai peut-être même le revoir encore.
Wreck-It Ralph. Une affaire de famille. Le titre en anglais, si je me rappelle bien, c'est Shoplifters.
C'est bien ça.
Wow, pas mal. Et le dernier film, c'est Rémi sans famille. Alors là, les amis, on va terminer sur une belle note, je le sens, puisque c'est un film avec Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen. Ça a l'air super. On va en parler. Commençons tout de suite par le box-office. Ah oui, très important, avant que je parle du box-office. Décidément, je suis dans tous les sens aujourd'hui. On va parler de quelque chose de très important, c'est les nominations aux Golden Globes. Donc juste après le premier film de la semaine, qui sera Roma, on parlera un peu des différentes catégories, qui a été nominé, qui n'a pas été nominé, etc. Et un peu partager notre mécontentement, hein, dans certains cas, ou au contraire, notre soulagement de voir certains noms apparaître dans cette liste. Commençons tout de suite par le box-office. Alors, forcément, la semaine passée, il y a eu Astérix et le secret de la potion magique qui est sorti au cinéma.
Partout à Tis,
forcément, c'est le numéro 1 film d'animation. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, donc c'est une belle occasion. Il y a Ralph qui arrive, mais c'était la semaine d'avant, donc il a bien joué son coup.
Ralph, en France, il arrive au mois de février. Donc ils ont le temps. Ouais.
Ils ont bien prévu le coup, alors, Astérix, pour les vacances. Avec 660 000 entrées pour Astérix, comme quoi les Gilets jaunes n'ont pas empêché les gens d'aller voir ce film au cinéma. Hein.
Voilà. C'est un autre film d'animation qui est deuxième.
Oui, Le Grinch, 380 000 entrées pour sa deuxième semaine, donc il a un peu moins d'un million d'entrées en France pour deux semaines d'exploitation, ce qui en fait un film à succès, mais pas non plus le plus gros succès. Enfin, c'est pas un énorme démarrage pour un film d'animation américain en France. Il y a mieux parfois,
oui.
Puisque c'est en général les films qui fonctionnent le mieux en France, c'est les films d'animation. Le troisième, c'est Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, il est toujours là, avec un peu moins de 300 000 entrées, et donc 3,3 millions d'entrées en France, donc c'est quand même un beau score. C'est pas aussi fort que les Harry Potter, mais ça reste un très beau score, comparé par exemple aux États-Unis ou autres, où là, le film a fait un petit déclin dans la franchise de Harry Potter World, ou Harry Potter Verse, ou Wizarding World, c'est ça, pour pas se tromper. Le quatrième film de la semaine, c'est Pupille, on vous en parlait la semaine passée. Un film très touchant avec notamment Gilles Lelouch, Sandrine Kiberlain, etc. Sur l'adoption d'un enfant et l'abandon d'un enfant aussi pour la même occasion. Qui a fait un peu plus de 200 000 entrées, donc c'est pas mal du tout pour un film avec un sujet aussi intime et particulier. Donc on ne peut que l'applaudir. Et cinquième film, c'est Sauver ou Périr. Hein, donc c'est le film où Pierre Ninet affronte les flammes en tant que pompier. Et là, on a 255 000 entrées pour sa deuxième semaine, donc un peu moins de 600 000 entrées au total, ce qui en fait un bon score également pour ce genre de film toujours. Je propose qu'on ne perde pas trop de temps parce que, comme vous l'avez vu, on va parler de nominations, donc on va sans doute un peu s'étaler. Alors parlons tout d'abord de Roma. On en avait déjà parlé à Cannes dans notre épisode spécial. Non, pas à Cannes. Après, pardon, ton retour de Venise, on en avait parlé un petit peu, mais pas beaucoup. C'est l'occasion de faire le point ici puisque c'est un film assez particulier. Un, il est sur Netflix. Hein, et puis deux, c'est un film en noir et blanc qui se déroule dans le Mexico des années 1970, qui suit d'ailleurs une famille de classe tout à fait moyenne. Donc c'est un retour aux sources pour Alfonso Cuarón qui nous avait fait récemment des films beaucoup plus high budget, hein, on avait Gravity etc qui n'était pas du tout
chef d'œuvre.
Voilà, qui n'était pas du tout dans ce registre là donc il revient à un registre beaucoup plus simple, beaucoup plus familial, beaucoup plus drame. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut?
J'ai adoré.
Tu as adoré, pourquoi?
Voilà, j'arrête là, allez voir ce film.
Ça t'a rappelé ton enfance au Mexique?
Oui, tout à fait. Non, j'ai déjà pu aller au Mexique, mais je n'ai pas le connu. Je n'ai pas connu le Mexique des années 70, des années 70. Alfonso Cuarón, c'est son film le plus personnel parce qu'en fait, ça raconte. Il a été puisé dans ses souvenirs pour créer cette chronique familiale. C'est l'histoire d'une famille et de la muchacha de la famille, donc l'aide de ménage, on va dire. Et ça se passe dans une maison qui ressemble à la maison dans laquelle vivait Cuarón. Hein. Donc, c'est pas exactement une réplique, c'est pas une réplique exacte de sa maison à l'époque, mais c'en est assez proche. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le père de la famille va un peu abandonner sa femme et ses enfants.
Oui.
À côté de ça, la muchacha, elle va tomber enceinte, donc il va y avoir toute sa grossesse à gérer. Au même moment, il y a des émeutes étudiantes, et puis bon, il y a la vie quotidienne de la famille qui se déroule. Donc, c'est dit comme ça, on a l'impression que c'est un film qui raconte pas grand-chose. C'est pas une énorme aventure avec une trame bien précise. C'est vraiment une chronique familiale. Je pense pas qu'il y ait de meilleure expression que pour décrire le film.
Oui, d'ailleurs, le synopsis est aussi court que ça, hein. Concrètement, c'est deux phrases.
Bah oui, c'est normal, et c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que c'est pas parce qu'on a l'impression que le film ne raconte pas grand-chose qu'il ne raconte rien. Surtout, le plus important, c'est que ce qu'il raconte, il le raconte très bien, et de façon très belle. Cuarón réalise le film. Il a aussi fait le montage, il a écrit d'abord le film, il l'a réalisé, il a fait le montage, et il s'est aussi occupé de la photographie, parce que son chef opérateur habituel, donc Emmanuel Lubezki, qui travaille avec Iñárritu aussi, notamment, et Terrence Malick, n'était pas dispo pour des raisons de calendrier.
De planning.
Et donc, Cuarón a fait la photographie lui-même. Il était aidé, forcément, il n'était pas tout seul, il y avait quelqu'un avec lui. Mais donc, c'est vraiment un pur film de Cuarón, et ça transpire à tous les plans. C'est lui qui est derrière, quoi.
Et justement, c'est pas un film qui est un peu décevant de voir sur Netflix, s'il n'y a pas une recherche esthétique assez bien foutue de la part de Cuarón?
Il y a une putain de recherche esthétique. Oui. Il y a des plans séquences assez incroyables. Le film démarre en fait avec un truc tout con qui pourrait énerver un peu des gens. C'est un plan sur un carrelage, on est en extérieur, il y a le générique qui commence avec, t'as les noms, hein, réalisateur, machin. Non, il n'y a pas le to-doom.
T'imagines.
Je pense que je l'ai déjà
oui,
dit.
Oui, tu l'as déjà dit.
Pour les films qui sortent en salle, le générique, le logo Netflix a un peu changé. Mais donc voilà, on est en ce plan sur un carrelage, on est dehors, le générique commence, on entend des bruits d'eau. On entend que quelqu'un frotte le sol, en fait, lave le sol.
Oui.
L'eau va arriver dans le champ de la caméra, donc qui est juste vraiment sur des carrelages, rien de plus. Et avec le reflet, ça laisse apparaître une espèce de... Je sais pas si c'est une fenêtre ou si c'est une ouverture qui est au-dessus.
Ouais.
Tu vois un avion qui passe au-dessus, qui passe, que tu vois apparaître dans le champ et tout.
Ouais.
Et puis, l'eau quitte le cadre, la caméra monte, tu vois la femme qui nettoie, machin. Bref, c'est tout con, mais c'est une...
Back to essential, quoi, entre guillemets, c'est retour aux sources.
Ouais, mais je veux dire, c'est une chorégraphie qui a l'air simple, mais qui est très riche, en fait. Il y a quelque chose qui est incroyable dans ce film, c'est que parfois il ne se passe pas grand-chose dans le cadre, mais du coup, ça, tout ce qui se passe, t'es attentif aux moindres détails, y a quand même, ça donne une richesse au film. Et alors, pour répondre vraiment purement à ta question, oui, évidemment que c'est mieux de voir ça sur grand écran. C'est un super beau noir et blanc qui est moderne. Hein, c'est pas un noir et blanc vieillot. Tu te dis que t'as l'impression de voir un film des années 60. Non, c'est un très très beau noir et blanc avec beaucoup de piquets. Et évidemment, sur grand écran, c'est assez fabuleux. Les deux fois que je l'ai vu, c'était chaque fois sur grand écran. J'irai le revoir certainement une troisième fois, toujours au cinéma. Donc c'est dommage que ce soit sur Netflix, dans le sens où voilà, il y a beaucoup de gens qui ne le verront pas sur grand écran, mais qui le verront sur leur petit écran de télévision ou d'ordi. Voilà, mais si vous avez moyen, la possibilité de le voir dans de bonnes conditions, faites-le. Surtout que, j'en ai pas encore parlé, il y a un casting qui est vraiment assez fabuleux. Le film est tourné en espagnol, évidemment, mais il y a aussi les muchachas de la maison sont d'une ethnie locale, et donc parfois parlent aussi dans leur langue, oui, qui est différente de l'espagnol. Et c'est marrant, parce qu'au début du film, il est mis que le film est sous-titré en espagnol et que les dialogues dans l'autre langue sont mis entre crochets pour les différencier de l'espagnol. Et toutes les autres langues ne sont pas sous-titrées. Donc il y a des dialogues en anglais, par exemple, qui ne sont pas sous-titrés. Il y a un petit peu de français à un moment. Parce que des personnages vont au cinéma. Au cinéma, le film qui est projeté, c'est La Grande Vadrouille. C'est la fin du film. La séquence avec... avec l'allemand qui va tirer la mitrailleuse, mais qui louche.
Oui, je vois.
Tu vois bien. Hein,
ils doivent décoller avec les planeurs.
Voilà. La séquence de fin.
Oui.
Donc voilà, c'est un très très beau film qui est hyper touchant. Moi, je trouve que Alfonso Cuarón, c'est un des meilleurs metteurs en scène actuels. Vraiment, ce qu'il fait en termes de mise en scène, de cadrage, de plan-séquence, c'est assez remarquable. Donc, j'ai dû le dire à l'époque, le Lion d'Or était entièrement mérité. Et je pense qu'il va gagner beaucoup de prix. Là, pour l'instant, il y a pas mal de... Bon, là, on va parler des Golden Globes juste après, mais il y a pas mal de... toutes les associations de critiques des grandes villes américaines remettent leurs prix pour l'instant. Donc, l'association de critique de Los Angeles, de Chicago, de, je sais pas, de Boston, etc. Ils sont en train de remettre leur prix en ce moment. Roma a eu le prix du meilleur film de l'association des critiques de Los Angeles, par exemple. Voilà. Ouais. Je pense qu'il l'a eu à Chicago aussi, il faut que je vérifie. Je connais pas tous les prix par cœur, mais...
Ouais, mais qui dit Netflix,
il rafle des prix partout.
Il risque d'être exclu de certaines récompenses.
Les Oscars, je pense pas.
Non. Mais si on parlait tout de suite alors des Golden Globes, après que tu donnes bien sûr la note finale de Roma.
Un bon 4 étoiles.
Un bon 4 étoiles de Fanny.
Plus, hein.
Mais on l'a compris, c'est un film.
Voilà, c'est un film qui clairement. Oui.
D'ambiance.
Bien sûr.
Voilà, c'est bien pas. Sûr. Si vous attendez vraiment à une histoire, comme disait Thibaut, avec ABC, quoi, vous allez être un peu déçu parce que c'est vraiment un film qui se laisse regarder, qui se contemple, qui se. Tranquille, quoi. On plonge dans cet univers-là, cette famille-là, et c'est le but, quoi.
Moi, je le trouve vraiment fascinant. Il y a deux, trois semaines, on parlait de Steve McQueen, de Widows,
oui.
Qui a fait Hunger. Dans Hunger, il y a une scène où il y a un gars qui frotte un couloir pendant, je pense, 9 minutes ou pas loin. C'est juste un gars qui frotte un couloir. Et ça m'emmerde prodigieusement. Et ici, le premier plan de Roma... Il n'est pas exactement comparable de la même façon, mais il y a quelque chose de similaire quand même. Et rien que ce truc tout con de l'eau et du sol qui est là en train d'être lavé, c'est tout con, mais c'est quand même assez astucieux. Et c'est super beau. Tu vois qu'il y a une recherche, il y a tellement de recherches dans ce plan tout con. Et voilà, Cuarón, Moi, bon. je le suivrai partout. Quoi.
Tu le mets dans ton lit, quoi, c'est ça. Bon, ouais. 4 étoiles pour
Romain. Film qui sera dans mon top 10 de l'année, très clairement.
Il était... Oui, c'est ça. Mais ne dis pas tout de suite, on aura une émission spéciale qui reprendra entre autres les meilleurs films de l'année. Bon, bah, 4 étoiles pour Romain, on commence très très fort. Merci Alfonso. Même si on a hâte de voir...
C'est pour ne pas dire 5 par principe, mais on n'en est pas loin. Hein.
On a hâte de voir la suite des Fils de l'Homme. Hein, quand... Fils de l'Homme 2. Maintenant, on va parler des Golden Globes et on va passer chaque catégorie en revue rapidement. Hein, soyez rassurés, on ne va pas passer 25 minutes sur chaque catégorie. Alors, la première catégorie, c'est forcément le...
Mais tu veux commencer direct
par le dessous?
Bah ouais,
on commence par le dessous.
Comme ça, on va un peu plus vite et puis on termine par les...
D'accord. Hein. Alors, le meilleur film d'animation, voilà, si on commence par la dernière catégorie au cinéma. Alors, il y a Les Indestructibles 2.
Oui, mais non, ce ne sera pas le prix.
Non, mais fais le deuxième, comme ça on fait...
L'île aux chiens.
Mirail.
Que je n'ai pas vu, qui était à Cannes, et qui était très bien apparemment, mais pas vu. Ralph. Ralph Breaks the Internet.
Dont on va parler juste après cette news-ci. Et puis Spider-Man Into the Spider-Verse, dont on va parler la semaine prochaine, si je ne me trompe pas.
Ouais. Et voilà. On en parlera plus la semaine prochaine, effectivement, mais c'est mon gagnant dans cette catégorie.
Ah, carrément.
C'est pas mon pronostic, mais ça serait mon gagnant.
Donc ton gagnant serait Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ouais.
Et si c'est déjà très long sur la semaine prochaine.
Si c'est pas celui-là, Ralph. Dont on parlera juste après.
Donc c'est du lourd. Ensuite, il y a meilleur film en langue étrangère, bon, La Capharnaüm, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Girl, forcément, le film belge, Nous sommes là, en langue étrangère. Ensuite, on a Never Look Away.
Le film allemand de 3h08, qui sort au mois de janvier, qui est à Venise, j'en avais parlé.
Au grand bonheur, 3 heures de film, c'est fantastique.
Qui passe très vite.
Et Roma, forcément. Et encore un film dont on va parler maintenant, Shoplifters.
Ben
donc,
oui.
Une affaire de famille. Donc là, autant vous dire que cette émission est assez chargée. Comme vous allez comprendre, on ne va pas avoir beaucoup de 2 étoiles aujourd'hui.
Ben, dans cette catégorie, il y a pas mal de films qui pourraient se retrouver dans mon top de fin d'année.
Mm-hmm.
Voir qui ils sont. Et ben, je viens d'en parler. Là, mon gagnant, c'est Roma, évidemment. Mais c'est du lourd. Hein. Girl, Shoplifters. Je pense que celui qui a le moins de chance, c'est le film allemand. Les autres ont pas mal de chance. Girl en a peut-être un petit peu moins que Roma et Shoplifters, mais oui, moi, c'est mon gagnant, c'est Roma.
La meilleure chanson originale, et non, on ne va pas chanter, il y a All the Stars de Black Panther, suivi de Girl in the Movies du film Dumplin, alors qu'est-ce que c'est, je ne sais pas.
Je ne sais pas non plus.
Requiem for a Private War du film A Private War, Revelation, The Boy Erased.
Mais Boy Erased qui ne sortira pas dans nos salles, je suis assez outré. Voilà.
Et puis, le fameux hit RFM de l'année.
In the shallow.
Shallow de A Star Is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper, rien que ça.
Mais je ne vais pas donner de pronostic parce que je ne connais pas les autres chansons à part
ça,
Shallow.
Ça pue Shallow, ça pue Shallow quand même.
Bah ouais, mais attention parce que Black Panther, hein, donc Kendrick Lamar, hein.
Non, mais je pense que c'est plus conventionnel d'avoir Lady Gaga et Bradley Cooper qui viennent chanter sur la scène des Oscars que Kendrick Lamar, quoi, tu vois.
Ce sont les Golden Globes, hein, ici.
Ah oui, les Golden Globes, ça va, en effet, oui, non, c'est vrai que là, ils peuvent se permettre. Suite à cela, on a meilleure bande originale avec A Quiet Place, L'île aux chiens, Black Panther, First Man et Mary Poppins, le retour de Mary Poppins dans ce cas-ci.
First Man all the way.
Ça sent First Man. Meilleur scénario, on a Alfonso Cuarón pour Roma. On a Deborah Davis et Tony McNamara pour The Favourite. On a Barry Jenkins pour If Beale Street Could Talk. Alors, de quoi ça parle, je ne sais pas. Adam McKay.
Je te le dirai en temps utile.
Adam McKay pour Vice. Et Peter Farrelly, donc un des frères Farrelly. Et avec ses compères, hein, Nick Vallelonga, Brian Curry, etc. Pour le film Green Book.
Alors, il n'y a que Vice que je n'ai pas vu encore. Mais alors, scénario, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué.
C'est toujours très compliqué.
J'aime beaucoup celui de The Favourite, où ça pourrait être Green Book. Green Book est très bien aussi. Enfin voilà, de toute façon, on parlera de ces films un peu plus longuement en temps utile, parce que Green Book, Vice et... Mais en fait, à part Roma, les 4 autres films sortent chez nous à partir du mois de janvier. Favourite, vraiment tout début janvier, Vice aussi. If Beale Street Talk, je pense qu'il sort fin janvier ou en février. Et pareil pour Green Book, mais peut-être bien... Enfin, non, Green Book, je crois que c'est même en mars. Donc, voilà.
On est directement dans les catégories un petit peu plus importante. Meilleure actrice dans un second rôle, on a Amy Adams dans Vice, on a Claire Foy dans First Man, on a Regina King dans If Beale Street Could Talk, on a Emma Stone dans The Favourite, et puis on a Rachel Weisz dans The Favourite également. Prédiction.
Regina King dans If Beale Street Could Talk.
Ok, t'as pas encore vu Amy Adams, mais voilà.
Non, j'ai pas vu Amy Adams.
Meilleur acteur dans un second rôle, Mahershala Ali, pardon, pour Green Book, Timothée Chalamet pour Beautiful Boy, Adam Driver pour Black Lives Man, Richard E. Grant pour Can You Ever Forgive Me, et Sam Rockwell pour Vice qui joue George W. Bush. Rien que ça, quoi.
Alors là, il y en a deux que j'ai pas vu, Sam Rockwell et enfin, donc Vice et You, Can You Ever Forgive Me. Donc c'est un choix un peu plus compliqué et Mahershala Ali est dans Green Book.
Carrément.
Oula, ça va.
Oui. Excuse-moi.
Une petite sieste.
Il est 14h, hein, c'est ça, c'est l'heure de la sieste. Meilleur réalisateur, on a Bradley Cooper dans Star is Born, pardon. Alfonso Cuarón pour Roma. Peter Farrelly pour Green Book. Spike Lee pour Black Lives Matter. Et Adam McKay pour Vice. Alors, personnellement, Bradley Cooper, qu'est-ce qu'il fait là?
Excellente question. Mais alors là, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun. Il n'y a pas match, quoi. Cuarón. Alors, j'aime beaucoup Green Book, j'aime beaucoup Black Lives Matter, mais vraiment là il y a pas de compète, quoi. Alors bon, de nouveau, j'ai pas vu Vice, donc je peux pas juger Adam McKay, mais ayant vu son précédent travail, je le vois mal vraiment réellement entrer en compétition face à Cuarón.
C'est clair. Ensuite, on a meilleure actrice dans une comédie avec Emily Blunt pour Mary Poppins, Olivia Colman pour The Favourite. Elsie Fisher pour Eighth Grade, Charlize Theron pour Tully et Constance Wu pour Crazy Rich Asians.
Alors, j'ai pas encore vu Mary Poppins ni Eighth Grade, que je vois bientôt, cela dit. Mais là, Olivia Colman dans The Favourite, il y a pas photo non plus.
De chance, c'est ça. Meilleure actrice dans un drame, on a Glenn Close pour The Wife, Lady Gaga dans A Star Is Born, Nicole Kidman pour Destroyer, Melissa McCarthy pour Can You Ever Forgive Me et Rosamund Pike pour A Private War.
Il y a trois films que j'ai pas vus, donc c'est compliqué.
C'est chaud. Hein.
Mais j'aime beaucoup Glenn Close dans The Wife et j'aime beaucoup Lady Gaga dans A Star Is Born, donc ça va être compliqué.
Si Melissa McCarthy gagne le meilleur actrice en drame, c'est quand même quelque chose. Hein. Ce serait quelque chose.
Ouais.
Non, mais voilà, je pense honnêtement que ça va jouer entre Lady Gaga, Glenn Close peut-être aussi. Alors, meilleur acteur de comédie, Christian Bale pour Vice. Vice, c'est une comédie.
Faut voir.
Christian Bale, Lin-Manuel Miranda pour Mary Poppins Returns. Viggo Mortensen pour Green Book, Robert Redford pour The Old Man and the Gun, John C. Reilly pour Stan et Ollie.
À nouveau, Vice, pas vu, et Mary Poppins, pas vu, mais entre Viggo dans Green Book, Robert Redford dans Old Man and the Gun, et John C. Reilly dans Stan et Ollie, mon choix va vers Viggo Mortensen dans Green Book.
Oh, très bien, le retour du roi.
Même si Robert et John C. Reilly sont très très bien tous les deux.
Tout à fait. Alors, suite à cela, on a le meilleur film comédie ou film musical.
Attends, tu passes une catégorie, la meilleure acteur
dans un drame. Ah oui, excusez-moi. Hein? Meilleur acteur, tout court, dans un drame. Bradley Cooper dans Star is Born. In the Shadow. La, la, la. Willem Dafoe pour At Eternity's Gate. Lucas Hedges pour Boy Erased. Rami Malek pour Bohemian Rhapsody. Et John David Washington pour Black Lives Matter.
Mais là, je suis.
Il n'y en a aucun qui suscite une excitation dingue. Hein.
Alors, Willem Dafoe a eu le prix d'interprétation à Venise et c'était mérité. Donc, de cela, c'est vers lui qui irait mon prix. Oui, c'est pour lui qui irait mon prix, mais là, je ne suis pas très emballé par les nominations dans cette catégorie.
Ensuite,
même si ils sont tous bien. Hein. J'ai pas vu Boy Erased, donc je ne sais pas si Lucas Hedges est très bien dedans. Mais il est sûrement très bien dedans, la question ne se pose pas. Là comme ça.
Les meilleurs films de comédie ou films musicaux, on a Crazy Rich Asians, The Favourite, Green Book, Mary Poppins Returns et Vice. Alors qu'est-ce que Vice fait à côté de Mary Poppins Returns dans la catégorie? C'est quand même très particulier comme catégorie, qu'on se le dise. Je pense que ça va être Vice.
Je sais pas. Mais moi j'hésite entre Favourite et Green Book.
Et puis meilleur film drame, attention, Black Panther, qui sort de nulle part. Black Kingsman, Bohemian Rhapsody, If Bill Street Could Talk, pardon, et A Star Is Born. Alors, il y en a deux que je ne sais pas ce qu'ils font là, quoi. Black Panther qui sort de nulle part et Black Kingsman. J'ai bien aimé Black Kingsman, mais c'est pas un film à prix. Enfin, je vois pas.
Écoute, je ne sais pas. Moi, il y a même trois films qui ne. Enfin, voire quatre qui n'ont rien à voir.
Bohemian Rhapsody non plus, oui, c'est ça. Et Star is Born, bon, bah, c'est des chouettes films.
Ah non, mais là, il n'y a pas photo. Ça. If Bill Street Could Talk, qui est le meilleur des cinq. Black Panther, c'est vraiment le truc pour que les Américains se touchent la nouille. Ah, ouais, machin, c'est symbolique, c'est beau.
Non, c'est pour qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent la télé ce soir-là pour dire tiens, peut-être que Black Panther va gagner quelque chose, quoi. Tous les fans de Marvel.
C'est n'importe quoi.
Oui.
Voilà, ils ont déconné, les Golden Globes. Hein.
Donc voilà, c'était un peu les Golden Globes. Je suppose qu'on a parlé beaucoup de noms, etc. C'était un peu difficile de comprendre parce qu'il y a plein de films qu'on n'a pas encore vus, et vous aussi. Donc on va parler tout de suite d'un film que vous pouvez voir dès ce mercredi au cinéma. Voilà, on va revenir un peu dans le commun des mortels avec Ralph 2.0 ou Ralph sur le net, enfin Breaks the Internet en anglais.
Sur le net.
Sous les interwebs. Alors concrètement, dans celui-ci, dans le premier, pardon, il était question de jeux vidéo et dans celui-ci, il est question d'Internet. Donc, ouais, voilà, je ne m'aventure pas trop.
Quelle démonstration. C'est pas mal, hein. Plutôt impressionnante.
C'est pas mal.
T'avais vu le premier ou non?
J'ai rattrapé le premier, oui.
Ouais. Ah, c'est bien, c'est déjà ça.
Avec Von Schwitt, là, je sais pas quoi, c'est ça son nom. La fille, en anglais.
Vanellope.
Von Schwitt, ouais, c'est ça son nom de famille.
Ah, tu te souviens de son nom de famille?
Fieux. Donc, film très fun, faut le dire. Concept, oui. Concept gagnant, hein, on peut le dire aussi. Personnage gagnant aussi qui avait été fait par, enfin doublé par John C. Reilly,
ouais.
Avec beaucoup d'humour et vraiment, enfin voilà, il y avait un casting, il y avait vraiment ce côté américain, enfin ce côté d'animation américain qui passait très très bien. J'ai pas vu du coup le 2, tu l'as vu. Est-ce que la transition jeu vidéo internet se passe bien? Est-ce qu'il y a toujours autant de références rigolotes parce que dans le monde de l'internet, là, je suppose que ils peuvent se faire plaisir.
Oui.
Oui.
alors déjà, j'aimais beaucoup le premier parce que c'était vraiment très cool. Ce côté, c'était pas vraiment... Enfin si, jeu vidéo, oui. Mais c'était vraiment des personnages de bornes d'arcade qui, le soir, se retrouvaient dans... En fait, ils se retrouvent dans le bloc prise auquel sont branchées les bornes. Et c'était vraiment très cool parce que l'histoire était sympa. C'était un personnage qui en avait marre d'être le méchant de son jeu. Il voulait un peu il voulait essayer de changer de situation, de se faire des amis, etc. Et le premier était vraiment très réussi. Ici, un jour, va y avoir une nouvelle prise qui va être branchée. C'est la prise de la box Wi-Fi. C'est la prise du Wi-Fi. Et
ça donne une porte vers le net, alors.
Mais oui. Et surtout que il va y avoir un accident dans le jeu de Vanellope.
Ouais.
Le volant de l'arcade
Sugar Rush,
ouais. Va se casser. Sugar Rush, exactement. Donc s'il n'y a plus de volant, il n'y a plus de jeu.
Ça devient compliqué, oui.
Et s'il n'y a plus de jeu, on le débranche. Ouais. Et si on le débranche,
elle est partie.
Les personnages sont morts. Et donc, il va falloir essayer de trouver une solution. Il va falloir sauver Sugar Rush, sauver Vanellope, parce que Vanellope est devenue la meilleure amie de Ralph. Et donc, Vanellope et Ralph vont essayer d'aller trouver un volant.
De rechange sur Internet.
Et le faire livrer à
Amazon.
Voilà. Mais tout à fait, okay, Amazon. Oui. On va voir Amazon. Et donc, ils vont explorer Internet.
D'accord.
Et on va voir un peu comment ça se passe. Quelles sont les coulisses, en fait. Amazon, entre autres. Mais d'autres.
BuzzTube, j'ai vu.
Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de choses.
Ouais.
Qui sont citées de manière directe ou indirecte. Hein. Et. C'est un voyage, en fait. C'est un voyage dans les arcanes d'Internet. Avec,
t'écris ça avec tellement de précision, avec du temps. Tu,
mais
tu,
oui.
Tu mets des hésitations. Ça, on a l'impression qu'il va se passer un drame.
Dans je vous raconte une histoire.
Dans ce film, fait. C'est ça.
Mais oui, bien sûr. Il se passe plein de choses. Il y a beaucoup de références. On voit les princesses Disney.
Ah oui, pareil.
Mais oui, on voit les princesses Disney en 3D. Vanellope va devenir amie avec elle et tout. Et c'est trop mignon. Tu les vois prendre vie. Mais du coup, en fait, on est tout habitué à voir Pocahontas en 2D, à voir Blanche-Neige en 2D, etc. Et puis là, du coup, elles ont un petit côté... 3D un peu plus juvénile, c'est assez cool de les voir comme ça. Alors il y en a qu'on connaît déjà en 3D, style la Reine des Neiges, la fille dans Brave, tu vois, la rousse. Là, d'ailleurs, il y a une vanne très drôle à son sujet, soit. Voilà, moi je trouve que c'est un film qui est très riche, qui est très drôle, très amusant, il se passe plein de choses, c'est un beau film sur l'amitié, c'est un beau film qui critique aussi, hein, parce que bon, avec Internet, il y a des choses positives comme négatives, donc il y a certaines dérives que le film aborde, donc il y a des dangers aussi, donc chez Disney, ils ont vraiment fait un très beau boulot pour faire une suite qui tient la route.
Tes clients, quoi.
Complètement, je pourrais le revoir avec plaisir, bien sûr.
Bah écoute, en tout cas le premier qui était très bien aussi, donc...
Ouais, et alors ceux qui s'intéressent, j'avais fait une interview avec un des deux réalisateurs et avec le producteur du film il y a 3 ans, je crois. C'était pour Zootopie, un film absolument génial que j'adore aussi. Et avec le producteur, j'ai vraiment abordé tout ce qui était quel était le métier d'un producteur de films d'animation. Donc le gars, il a produit des trucs monstrueux et des gros succès de chez Disney. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Synopsis. Le producteur s'appelle Clark Spencer.
Okay.
Et personnellement, c'est des interviews que j'ai préféré faire parce que on a l'habitude de lire des interviews de réalisateurs, d'acteurs, actrices, etc. Mais jamais, ou très rarement les autres métiers. Donc si voilà, le métier de producteur...
Les hommes et les femmes de l'ombre.
Dans une grosse boîte comme Disney vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire cet entretien. Je me lance des fleurs, mais assez passionnant à lire. Voilà.
Mais ils ont pas un peu abusé en mettant les princesses Disney dans celui-ci, parce que s'ils font Internet plus les princesses Disney, le 3, ça va être compliqué.
Non. Alors, plus les princesses Disney, c'est un petit passage dans le film. Hein.
Ah, d'accord. Donc, ils peuvent encore explorer ça si besoin.
Je pense qu'il n'y a même pas besoin, ils ne le feront pas, mais on va dire qu'il y a un petit côté fanservice sympathique. Enfin, fanservice. Non, c'est pas comme si on était dans Star Wars et qu'on avait plein de clins d'œil au précédent, ou qu'on était dans Jurassic World. Voilà. Ouais. Mais. Donc, c'est pas vraiment du pur fanservice, mais. Mais non, c'est juste sympa de voir, ces personnages.
C'est chouette,
prendre
c'est
vie.
Cool.
Ouais,
avec un petit côté décalé comme dans le premier, quoi.
Toujours.
Super. Très chouette. Ça donne envie d'aller voir Ralph 2.0 pendant les vacances de Noël. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note, du coup ?
Un bon 3,75.
Tu peux pas ça. C'est 4 alors.
3,76 ?
3 ou 4 ?
3, allez.
3 étoiles pour Ralph 2.0 ou Ralph Breaks the Internet. Alors, on reprend un peu des news, là. Hein. Je pense qu'il faut prendre un peu des nouvelles de notre monde du cinéma, parce qu'il y a des choses qui vont pas bien du tout. Alors, j'ai vu, déjà. Hugh Jackman avait fait une annonce il y a quelques semaines en disant « Je vais aller dans les talk shows, vous allez voir, j'ai une grosse annonce à faire. » Et tout le monde a commencé à paniquer, parce qu'il se disait « Attention, Hugh Jackman, grosse annonce à faire, il y a Deadpool, etc., tout l'univers de Deadpool qui va s'agrandir. Ben, pourquoi est-ce que... Wolverine et Deadpool ne feraient pas un film ensemble ou... Donc il y avait vraiment une grosse attente par rapport à ça. Et ben non, il se trouve que Hugh Jackman en fait va faire un one man show ou un one man comedy show ou one man musical show plutôt.
Ça s'appelle Hugh Jackman The Show.
Voilà.
Tout simplement.
On dirait qu'il est mort et qu'on fait un truc immémorial. Hugh Jackman The Show, où il va chanter des chansons de ses films, The Greatest Showman notamment et Les Misérables. Entre autres, et donc il va faire une tournée mondiale qui passe par Amsterdam et Paris. Entre
autres. Alors j'ai les dates devant moi, je vais pas toutes les dire, hein, mais pour les auditeurs susceptibles de nous écouter, je vais donner quelques dates qui peuvent être intéressantes parce qu'ils ne passent pas en Belgique.
Oui, c'est ça.
Donc, mais par contre, pour les Belges, une date qui peut être éventuellement intéressante, c'est Cologne le 16 mai. C'est pas super loin.
Non, c'est pas très loin.
Le 17, il y a Amsterdam, donc c'est l'autre date assez facile. Ensuite, il y a Paris le 22 mai. Et pour l'instant, il y a encore des tickets pour tout sauf un show à Manchester qui est déjà sold out. En Angleterre, ils sont sold out. Angleterre et Irlande, c'est quasi tout sold out. Et puis après, il va aux États-Unis au mois de juin, juillet.
Ah,
Donc
carrément, il
voilà,
fait une
si ça vous
tournée
intéresse.
mondiale.
Oui,
La
alors.
seule en scène en plus, donc le. Oh là là.
C'est en plein pendant le Festival de Cannes hein, qui passe par chez nous. Donc, il va falloir. Falloir faire des choix dans la vie. Et voilà, les tickets sont autour d'une soixantaine d'euros, plus ou moins.
Ouais, quand même.
Donc c'est correct.
Bah, c'est correct, c'est le prix pour un grand truc, une grosse tournée, quoi, hein, qu'on se le dise.
Bah, si quelqu'un a envie de voir Hugh Jackman qui chante Les Misérables, The Greatest Showman, et genre de trucs, n'hésitez pas, quoi.
Putain.
J'ai toujours pas vu The Greatest Showman, et très honnêtement. Alors, j'ai pas spécialement envie de le voir, mais y a un petit côté en moi qui me dit. Est-ce que t'as envie d'être maso et aller te faire une
Ah,
comédie
moi je l'ai vu, je pourrais
musicale?
le mettre dans mon top cette année ou pas.
Ne fais pas ça, sinon on arrête cette émission. ouais, il y a quand même un petit côté en moi qui me dit. J'aimerais bien avoir Hugh
Surtout
Jackman.
Zac Efron et Zendaya, quoi, tu vois, ça c'est.
Et Greatest Showman, donc ouais, je sais pas. Bah, je pense qu'un concert de Hugh Jackman, ça doit être sympathique. Le mec, il est né pour ça, quoi.
En tout cas, les acteurs ont trouvé un nouveau moyen de se recycler à l'international pour faire un truc. C'est une tournée mondiale avec un seul en scène, ça va lui ramener des pépites.
Ouais, c'est pas un seul en scène, hein, c'est
10 normalement, oui. T'imagines un seul en scène
Ouais,
dans
mais
un stade de foot?
à mon avis, il a des danseurs avec lui, il y aura des chorés, des trucs. C'est un concert, quoi, ça va être un show.
Jackman le show. Ok, très bien. On passe à la deuxième news. C'est Léa Seydoux qui va continuer à jouer dans la saga James Bond puisqu'elle va reprendre son rôle de Madeleine Swann
Ouais.
dans le prochain qui est en tournage pour l'instant.
Non, ça n'a pas
Ou
encore
il va
commencé
démarrer bientôt,
le
soit.
tournage. Mais oui, a priori, c'est la première fois qu'une James Bond girl revient dans un film suivant. Donc, surprise. Voilà. Léa Seydoux serait de retour.
Ça va être la love interest de Daniel Craig.
Ouais, elle sera réalisée par Cary Fukunaga. Et il y a le.
Une autre news hein, pour ce film-là.
Ben oui, ce sera Linus Sandgren qui sera le chef opérateur. Donc c'est à lui qu'on doit notamment le dernier Casse-Noisette. Hein. Et c'est lui qui est le chef op de Damien Chazelle sur La La
T'as la
Land
référence,
et
quoi.
First Man.
Tu peux commencer par ça, quoi, le gars.
Et
C'était lui
ben
qu'on
non,
doit notamment
j'avais envie de dire
les publicités pour AXA Bank. Et tu commences pas par des trucs pareils. Ok,
Mais
donc
écoute,
le
c'est le
chef-op de
dernier
Damien
film
Chazelle.
qui est sorti en date. Donc, mais oui,
Ok.
c'est le chef-op de Damien Chazelle qui fait un excellent boulot sur La La Land
Et sur First
et First
Man,
Man.
on entend parler encore de ce film.
Oui, on en parlera encore bientôt.
Et dernière petite actu avant qu'on passe au troisième film de la semaine, Sister Act 3, oui. Il sera là sur Disney+. Donc ça, c'est quand même une nouvelle que tu attends avec impatience ou pas? Thibaut.
Oui, non.
Pourquoi tu n'attends pas avec impatience Sister Act?
voilà quoi.
On passe tout de suite au troisième film de la semaine avec cette note de... Une affaire de famille.
Oui.
Tout à fait.
Tout à fait, on fait ça.
Une affaire de famille, un film de Kore-eda, donc c'est un film japonais que tu as eu l'occasion de voir à Cannes, mais que je n'avais pas vu.
Qu'est-ce que tu avais de mieux à faire à ce moment-là? Hein?
Je pense que on va pas encore parler de ce
Oh
film.
non,
Non,
hein?
non, non,
Non, non.
non.
Parce qu'on va commencer à penser que t'es payé
Je
pour en
suis payé à la
parler.
com. Non, non, pas du tout. Donc voilà.
Dès que tu prononces le mot, enfin, ces trois mots l'un à la suite de l'autre, on parle d'un film de piscine, là, avec
Ah ouais,
film
j'étais en
français.
interview avec Gilles Lelouch, je pense, à ce moment-là.
Oh là 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 là,
Voilà.
monsieur, comment il se la
Pas dire pour quel
pète!
film. À Cannes, voilà, sur un balcon.
J'étais à Cannes, sur la terrasse
J'étais à Cannes sur la terrasse.
C'était qui l'hôtel?
Le Marriott.
Le Marriott. J'étais là avec mon mimosa en haut
sur le
sur
Marriott.
la terrasse du Marriott avec Gilles
Non,
Lelouch.
c'était plutôt
Et écoute,
expéditif.
on discutait de.
Voilà, c'était assez expéditif. Par contre, à la table d'à côté, il y avait Mathieu Amalric qui buvait un verre de vin et qui fumait des clopes. Et ça avait l'air vachement sympa cette interview parce qu'ils étaient tous en mode détente. Et il était là, quelqu'un veut un verre de vin? Et moi, j'étais avec Gilles qui était beaucoup plus stressé, beaucoup plus parce que forcément son film.
Ouais.
Donc, pas vraiment la même personnalité, mais on a eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas si longtemps. Rencontrer furtivement Mathieu Amalric, qui était tout aussi sympathique
Oui.
que la fois où
Toujours
j'avais
avec
vu.
un verre en main.
Toujours avec un verre en main, même si je pense pas que c'est. Voilà, c'était la circonstance qui faisait que.
Oui. Nous
Bon, on n'est
aventurons
pas en train de
pas.
dire que c'est alcoolique, c'est ça que je veux dire, voilà.
Bon, une affaire de famille.
Je l'ai pas vu. Hein, je l'ai pas vu. Ça parle du coup de vol à étalage en partie, puisque au retour d'une nouvelle expédition de vol à étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme d'Osamu accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle comprend que ses parents la maltraitent. On va s'arrêter là.
Non, vas-y, dis la dernière phrase.
Je peux continuer. Ouais, en dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leur maigre salaire, les membres de cette famille semblent vivre heureux jusqu'à ce qu'un incident révèle brutalement leur plus terrible secret. Oui. Tintintin. Donc c'est un film, contrairement à Romain, on a une histoire.
Bon alors, tu retires tout de suite ce que tu viens de dire.
Alors, je prends un café.
Mais oui, d'une certaine façon, je comprends bien.
Tu comprends ce que je veux dire.
Ce que tu veux dire.
Tu vois, la flaque dans Romas, c'est une flaque d'eau. Ça aurait pu être une flaque de sang, tu vois, pour redonner un peu de...
Oh,
flaque de sang, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, non. L'affaire de famille, c'est non. Un peu plus...
Es-tu un peu familier avec le cinéma de Hirokazu Koreeda?
Ah oui, les japonais, oui, ça c'est ouais. Mon cinéma, tu sais. Je te rappelle que j'ai vu The Greatest Showman cette année, d'accord ? Et que c'est moi qui ai eu le choix d'y aller. Donc, tu vois, c'est vraiment un choix volontaire. Ouais. Non, c'est pas du tout mon style de cinéma.
D'accord.
Non. Et justement, essaie de me convaincre d'aller voir ce film.
Mais est-ce que tu avais vu Tel Père, Tel Fils déjà ? Non ? Non, ça ne te dit rien.
Ça me dit rien.
Notre petite sœur, non ?
Non.
Malheureusement, c'est toujours assez compliqué de découvrir le cinéma japonais chez nous.
Eh ben, vas-y,
je pense que Koreeda est un des seuls qui sort quasiment systématiquement dans nos salles. Et tant mieux ! Parce que, enfin, tant mieux que lui sorte, pas que les autres ne sortent pas. Mais j'adore le cinéma de Koreeda. J'avais eu l'occasion de l'interviewer pour Notre Petite Sœur, justement. Un très joli film. Comme tous ses films, d'ailleurs. Mais en fait, Koreeda enchaîne beaucoup les tournages. Il sort quasiment un film par an. Et disons que ces dernières années, il y en a eu 2-3 qui étaient un petit peu en dessous. Et là, avec une affaire de famille, il réalise un peu un film somme. Mmh. Je vais pas dire, je sais pas si c'est son meilleur, mais c'est vraiment celui qui représente le mieux son cinéma.
D'accord, qui emboîte vraiment tout son savoir-faire.
Ouais, ouais. La famille, c'est clairement un de ses sujets de prédilection. Il en parle dans à peu près tous ses films, d'ailleurs. Les quelques titres que j'ai cités ici, j'ai parlé de Tel Père, Tel Fils, c'est déjà assez éloquent. Ensuite, oui. Notre Petite Sœur, c'est assez éloquent aussi.
On reste toujours dans un concept.
Voilà, et même quand il n'y a pas clairement des membres d'une famille cités dans le titre, ça tourne toujours ou quasiment toujours autour de ça. Donc la famille est omniprésente dans son cinéma. Et ici, c'est une famille assez particulière parce que déjà, effectivement, c'est une équipe de voleurs...
De bras cassés, quoi.
De bras cassés, voilà. Mais cette famille est un petit peu atypique. Bon, déjà, ils vont recueillir une petite fille parce que ses parents ont l'air du style violent.
Uh-huh.
Donc, ils vont pas signaler à la police. Non, non, ils la prennent avec eux. Sympa. Et effectivement, il va y avoir un incident. Un jour, il y en a un qui va se faire attraper. Et là, la famille va exploser. Je peux vraiment pas dire dans quelles conditions, en circonstances, etc. Parce que alors vraiment, ça serait balancer le spoil du film.
Non, mais par exemple, ça pourrait être... C'est pas le cas, hein, j'ai pas vu le film.
Non, ne dis pas. Ne fais pas tes suppositions.
Mais c'est une réaction en chaîne, en fait. Il y en a un qui se fait avoir et du coup, ça remet en question toute l'organisation familiale. C'est ça. Point barre.
Voir...
Arrête là.
Oui. Mais ça va éclater, ça va vraiment éclater dans tous les sens, pas spécialement uniquement à cause du vol en tant que tel, mais on va dire que le vol, que le fait que la personne soit fait attraper, ça va vraiment avoir des conséquences assez dramatiques pour cette famille. Ce qui est génial chez Koreeda, et c'est, je pense, une des grandes forces du cinéma asiatique de manière générale, c'est que c'est un cinéaste, et, enfin, ce sont des films, et Koreeda est un cinéaste assez sensible, qui a un regard sur ses personnages qui est vraiment très fort, Et il a une grande force, c'est d'utiliser le non-dit.
Mmh.
Il se passe des choses, on dit pas toujours quoi, on dit pas toujours comment ou pourquoi, etc. Mais on comprend ce qui se passe. Et je trouve que c'est une grande force dramaturgique, parce que ça donne beaucoup de corps,
ouais, bien sûr,
à ce qui se passe. Dans le cinéma, il y a une maxime qui est souvent utilisée, c'est show, don't tell.
Bien sûr.
Voilà, montre, ne raconte pas. Et cette façon d'utiliser le non-dit, ben, c'est génial, parce que voilà, on comprend. C'est dans ce but-là uniquement. Et en plus, dans le cinéma de Koreeda, de manière générale, il y a toujours des éléments un peu cachés qu'on découvre petit à petit, parfois de manière très surprenante. Donc, on va dire que le cinéma de Koreeda, c'est beaucoup des couches comme ça. Et tu dois retirer une couche l'une après l'autre pour vraiment comprendre ce qu'il veut raconter et où il va. Et à quel point ces films sont riches, en fait. Donc,
c'est pour ça qu'ils sont riches, parce que les personnages sont tous très développés, ils ont tous des couches
c'est ça.
Différentes. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, ils se révèlent différemment. Et voilà, c'est un peu les éléments de surprise, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a Tout est très développé, la construction est géniale, la construction narrative. Il y a toujours des structures très intelligentes où tu t'es dans une histoire, tu sais pas forcément où ça va aller, et puis là, boum, le film bascule et tu découvres complètement autre chose à laquelle tu t'attendais pas forcément, ouais. Quoi. Donc moi c'est quelque chose que j'adore, et je trouve que clairement Une affaire de famille, c'est son meilleur film depuis Tel père tel fils, qui était mon film préféré de Koreeda jusqu'à présent. Donc vraiment c'est
donc ça strike, ça marche,
ça strike complètement. Et il a un casting de fou. Il y a Lily Frankie qu'on voit à peu près dans tous les films de Koreeda, qui est génial, mais il y a aussi la star Kirin Kiki, qui était dans les délices de Tokyo il y a 2 ans, 3 ans. Je pense qu'elle est décédée maintenant, il faut que je vérifie. Je me sens qu'elle est décédée il y a quelques mois. C'était vraiment une grande star du cinéma japonais. Et donc là, vraiment, pour son film, il avait vraiment réuni un casting hallucinant, quoi. Enfin, pour ceux qui sont un peu familiers du cinéma japonais, ils reconnaissent vraiment des acteurs qu'on voit assez souvent. Oui, effectivement, Kirin Kiki, elle est bien décédée au mois de septembre, donc il y a quelques mois.
Donc voilà.
Et bah oui, Une affaire de famille, encore un grand film, quoi.
Encore un grand film. Ouais. Si vous aimez justement ce genre de puzzle familial avec des retournements de situation, un drame qui se joue sous vos yeux, qui part d'un concept assez simple mais qui pourtant est compliqué et bien développé, n'hésitez pas à aller voir Une affaire de famille cette semaine. Tu lui donnes combien ?
À ton avis ?
4.
Joli.
Oh, c'est une idée. Ouais. Donc, on a du lourd, hein, quand même. Il y a eu Roma, 4 étoiles. Ralph 2.0, 3 étoiles. Une affaire de famille, 4 étoiles. Décidément, ça n'arrête pas. Est-ce qu'on partait un peu dans les news une dernière fois avant de passer au dernier film de la semaine ?
On peut.
On peut. Hein.
Surtout qu'il y a quand même une nouvelle assez significative.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Europacorp, la société de Luc Besson, hein, notamment, qui produit les taxis.
Ouais. Ils produisent et ils distribuent.
Oui, ils produisent et distribuent leurs films. Bah, elle est à vendre, hein, depuis un petit temps maintenant. Je pense que ce n'est pas un secret que Luc Besson essaie de s'en débarrasser.
Bon, c'est même qu'ils ont ce fight, carrément, non ?
Non, ils essaient de revendre à genre, y avait Netflix qui était en discussion avec eux il n'y a pas longtemps. Pour racheter Europacorp.
Oui, mais en fait, ils ont... Si, en fait, ils font faillite, ils sont obligés d'arrêter tout ce qui est distribution.
Oui, donc dans ce cas-ci, ils vont arrêter de distribuer les films, tout à fait, et c'est Pathé qui va reprendre le flambeau. Donc ça, c'est l'actualité du jour.
Alors, je ne sais pas s'ils vont reprendre le flambeau pour tout, mais en tout cas...
Pendant les 3 prochaines années, c'est ce qui est marqué.
D'accord.
En tout cas.
Okay.
Donc pendant les 3 prochaines années, Pathé va distribuer les films Europacorp.
C'est un accord général pour tous les films Europacorp.
Ouais.
Ok. Parce que je savais que j'avais vu qu'ils allaient effectivement distribuer notamment le film de Guillaume Canet, la suite des Petits Mouchoirs, mais je savais pas que c'était vraiment global comme accord. Mais c'est très bien parce que Europacorp produit quand même parfois, ça arrive, des choses bien.
Ils font 2-3 films par an.
Oui, pas toujours des bonnes choses, mais ils produisent quand même quelques films par an. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que ces films, pas tous, trouvent quand même repreneurs, si je puis dire. Bah, surtout que je pense que la suite des Petits Mouchoirs, bon, sera peut-être pas ouf, sera peut-être pas aussi bien que les Petits Mouchoirs, mais...
Ça va attirer des gens en salle, ça c'est sûr.
Bah, disons que c'est un des films qui a l'air des plus intéressants dans le catalogue, ouais. Europacorp. Taxi, malheureusement, n'est quand même pas
flamboyant. Bah oui, mais le problème, c'est que je pense que Luc Besson essaie de revendre. Il y avait eu le problème forcément de Valérian, hein, qui a coûté très très cher.
Valérian,
qui avait coûté très très cher à Europacorp et qui a foutu la société dans la merde puisque le film n'a pas été rentable. Et suite à ça, ils ont essayé un peu de relancer Taxi, etc. pour.
Perte nette de 70 millions d'euros.
Voilà.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Ça,
il faut ça s'appelle un four.
Il faut quelques gros succès pour que ça revienne, hein, faut autant le dire. Donc voilà, peut-être que le succès va se jouer avec Ed Sheeran, mais ça, c'est pas du tout la même chose. Ed Sheeran qui, comme vous le savez, a envie de faire du cinéma. Hein. On l'a vu il y a pas longtemps dans Game of Thrones, qui a fait un épisode avec un tout petit rôle de chanteur. D'ailleurs, il chante autour d'un feu. Et c'était nul, autant dire tout de suite. Et là, j'ai eu très peur. Hein. Je vous l'avoue, j'ai vu le titre de l'article, je me suis dit non, c'est pas vrai. Ed Sheeran au casting de Star Wars épisode 9. Alors oui, là vous vous dites non, mais heureusement, hein, en cherchant un petit peu l'information, fausse information de la part des médias, il va jouer un caméo, tu sais, un peu comme Daniel Craig qui avait fait un Stormtrooper. Bon, ben voilà, c'est pas...
Il avait une grosse scène quand même, Daniel Craig. Hein.
Oui, il avait une grosse scène. Mais
on
ne
savait pas que c'était lui, ouais, c'est ça. On l'a vu dessus, mais il avait une grosse scène lui.
Ouais.
Je crois qu'il est. Je me demande s'il n'y a pas William et les princes Harry et William d'Angleterre qui
font un caméo aussi. Ils ont fait un caméo dans Star Wars.
À mon avis, ils jouent tous des Stormtroopers.
Oui, c'est facile à cacher. Donc, Ed Sheeran va en effet passer vite fait en coup de vent dans un Star Wars. Il voulait un prétexte pour aller sur le plateau, hein, on va pas se mentir.
Oui, c'est ça.
Il a appelé son pote JJ.
Écoute, moi, tant qu'il joue pas dedans, qu'on le voit pas vraiment sa tronche.
Ou qu'il fasse la musique officielle. Oh, t'imagines.
Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Non, parce que franchement, son rôle dans Game of Thrones, c'était atroce.
C'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout.
C'est une catastrophe. Alors si en plus, il commence à jouer dans Star Wars, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein.
Il faut qu'il arrête d'appeler, donner des coups de fil à Tyrann. Je peux être dans ton film. Donc non, voilà, c'est très bien. Est-ce qu'on parlerait pas du dernier film de la semaine? Rémi sans famille. Tu te rappelles de Rémi sans famille?
Je m'appelle Rémi et je suis en famille.
C'est ça?
Ouais. Bah, oui, je m'en souviens. Je crois que c'était le dessin animé le plus dépressif au monde.
On a tous eu un enfant au scout ou en primaire qui s'appelait Rémi et qui se faisait insulter de sans famille à la cour de récré.
C'est vrai, oui. C'est vrai.
On a tous eu quelqu'un comme ça. C'est comme Guillaume, maman, le méchant homme. Donc s'il y avait un film qui s'appelait Guillaume, le méchant homme, ce serait bizarre. C'est le méchant homme, en fait.
Oui.
Oui, mais ils disent méchant. Dans la chanson, c'est... Ok, soit. Rémi sans famille.
Tu te remémores des souvenirs?
Bah, oui, pas du tout. Rémi sans famille, un film de Antoine Blossier, que tu connaissais, bien sûr.
Bien entendu.
Avec Daniel Auteuil et Virginie Ledoyen, entre autres. Ça raconte les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. À l'âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié à Sidnor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Donc déjà, c'est le truc, ça donne envie. Accompagné du fidèle chien Capi et d'un petit singe joli cœur, son voyage à travers la France, fait de rencontres, d'amitié et d'entraide, le mène au secret de ses origines. Et t'as été voir ça, toi?
Que veux-tu?
Rassure-moi, t'avais été voir Belle et Sébastien plutôt dans l'année ou pas?
Ouais, ouais.
Ah oui, c'était mieux.
Je suis pas sûr, non.
Ah ok, d'accord.
Non.
Mais c'est pas un film de vieux,
par hasard. Rémi sans famille est mieux que Sébastien 3. Hein. Enfin, que Belle et Sébastien 3, ça c'est sûr. Ah, disons que, alors, un film de vieux, disons que c'est le film de Noël pour la famille.
C'est un film calculé.
Pour aller voir, pour que les grands-parents emmènent leurs petits-enfants en salle.
Exactement. C'est mes parents qui vont emmener le fils de mon frère à voir Rémi sans famille au Stockel. Je le vois très bien là, tu vois.
Ah ouais.
J'ai l'image en tête là, tu vois.
Mais vas-y, suggère-le.
Oh, mais je vais pas le suggérer, ils vont le faire tout seul.
Bah, l'histoire, tout le monde la connaît, je pense, de Rémi sans famille. Alors j'y étais et je pense que je l'ai même un peu survendu à des confrères journalistes parce que j'avais eu des échos qui étaient plutôt positifs Apparemment, c'était mieux que.
Que Belle et Sébastien.
Qu'est-ce qu'on aurait pu craindre, tu vois. C'était pas si mal. Et alors, effectivement, c'était mieux que ce que j'aurais pu craindre.
C'était pas un désastre, quoi. C'est pas Spirou et Fantasio,
non.
Oui, c'est ça.
Non. Mais c'est... Alors, c'est pas fameux quand même. Hein. C'est pas mauvais, mais ça m'a pas transcendé, loin de là. Daniel Auteuil est plutôt bien, je dois le dire.
Qui joue du coup Signor Vitalis.
Oui, il joue vieux.
Il chante.
Non.
Ah, ok.
Je pense pas.
D'accord.
Le môme chante, ouais.
Ah, ok.
Mais pas pas Daniel. Je sais même pas quoi te dire sur ce film.
Est-ce que l'aventure est sympathique? Est-ce qu'un enfant va
aimer? Mais non, bah alors le problème, c'est que c'est absolument pas réjouissant, quoi, l'histoire de Rémi.
Ah, c'est 1h50 de déprime, quoi.
Bah ouais, mais je sais pas si tu te souviens, mais. Bon, c'est un peu un spoil parce que ça se passe dans le film, mais ça se passait déjà dans le dessin animé.
Quoi, il a pas de famille?
Moi, je me souviens. je m'en souvenais. Il y a le vieux qui crève, il y a le macaque qui crève. Enfin, déjà, le môme est tout seul et en plus, il y a tout le monde qui crève autour de lui, quoi, tu vois. Par contre, je ne sais plus si le vieux crève ici dans le film.
Comme quoi, il a besoin d'apprendre le deuil, quoi.
Je pense que oui. Mais c'est absolument pas réjouissant. Et quand t'es gosse, t'es limite un peu traumatisé par ça, quoi. Donc, donc c'est pas la grande aventure. Pour le coup, c'est moins la belle grande aventure que Belle et Sébastien, tu vois.
Ah oui, ça c'est sûr.
Même si le film est un peu mieux. Parce que vraiment, Belle et Sébastien 3, c'était une catastrophe. Hein. Clovis Cornillac, je sais pas ce qu'il avait fait, mais. Soit. Écoute, je sens que je suis en train de m'éparpiller complètement à parler de ce film, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, très honnêtement.
Okay, bah alors donne une note et ça on passe après au film de la semaine.
Je veux dire, l'histoire, ça suit sympathiquement. C'est pas hyper passionnant, mais ça fait le boulot. Le gamin joue pas trop mal pour une fois. Daniel Auteuil, je le trouve très bien. Ouais. Les costumes, ça va. Les décors, ça va. Ça va amuser peut-être un peu les enfants. Ça va peut-être un peu emmerder les adultes. Et voilà, on va lui donner une bonne étoile. Emballé, c'est pesé. C'était la meilleure critique de l'année. Et ça rime.
Ah oui, non, ça c'est sûr que non.
Boum.
Je te le confirme, c'était clairement pas la meilleure. Heureusement qu'on a attendu la fin de l'épisode pour parler de Rémi sans famille. Mais je pense que vous êtes douté dès le début de l'épisode qu'on n'allait pas en dire du grand bien.
Non, mais alors, je le redis, c'est mieux que ce que je pensais que ça serait.
Par contre, c'était les pas films si mauvais que ça, mais... de la semaine, et Dieu sait qu'il y a du choix. Surtout chez nous en Belgique, parce que bon, forcément, il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. Mais chez nous en Belgique, il y a pas mal de films flamands cette semaine. De Collega's 2.0, on dirait The Office. Hein, ça a l'air d'être ça. Une comédie flamande avec un casting dans un bureau, voilà. Nachtwacht, de Poort der Zielen. Un film familial néerlandophone qui a l'air d'être un peu un espèce
de... Il y a eu accent, hein, Vent?
Mais de Nachtwacht, de Poort der Zielen. Qui a l'air d'être un truc... Waouh. Le poster a l'air de tâcher ses mères.
On dirait un truc fait sur Paint, même pas sur Photoshop.
Non, on dirait
un truc fait sur Paint avec du détourage dégueulasse.
On dirait Blanche-Neige, là, tu vois. Snow White, mais version film Z, quoi. Tu vois, on n'est pas du tout dans un film.
On va partager l'affiche sur notre page Facebook. Comme ça, les gens vont un peu dire, voilà le fameux film dont
on parlait. Et je pense que si un ou deux perd un pari, il doit aller voir ça, quoi. Ça, c'est clair.
Je me tape pas le Kinépolis pour aller voir ce truc.
Marc, toi, et Paul de Gilles, non, tu vas pas voir ça au
non,
cinéma
non,
Palace.
Non,
je crois pas que ça passe au Palace.
Non, sûrement pas.
Une affaire de famille Shoplifter, qui ça, par contre, est une petite pépite. 4 étoiles, à mon avis, ça va être dans le top 10 de Thibaut, ça. Je pense, ça pue. De Kore-eda. On a Ralph Breaks the Internet ou Ralph 2.0. Très belle suite. Suite réussie, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Donc bravo. Puisque la transition de Ralph sur le net fonctionne très bien, avec notamment l'apparition des princesses Disney qui t'a fait vachement rire. Donc
mais c'est une suite.
C'est des bonus.
C'est aussi bien que le premier, voire peut-être mieux.
Carrément. Ce serait une suite
en qui tout cas, fait c'est mieux que le premier. C'est aussi bien.
C'est pas mal ça.
Bah, ça arrive. Hein.
Alors là, il y a un film. Chaque année, Gérard Butler nous fait une pépite. L'année passée, on a eu Geostorm.
C'est le petit Gérard Butler movie de la semaine.
Et Hunter Killer. Oulala.
Ça a l'air fantastique, ce film.
Ça c'est un film qu'il faut aller voir si jamais il y a un problème. Il y a Gary Oldman quand même dedans.
Alors, le synopsis, c'est fabuleux, quoi.
Vas-y.
Dans les profondeurs de l'océan Arctique, alors que le commandant sous-marinier Joe Glass tente de retrouver un sous-marin américain en détresse, il découvre que des terroristes russes préparent un coup d'État menaçant de bouleverser l'ordre du monde. Glass doit désormais réunir une troupe de Navy SEALs afin de sauver le président russe retenu en otage et éviter la Troisième Guerre mondiale.
Waouh!
Du bon, bon Gérard Butler movie. Moi, je sens. Je pense que je sais déjà avec qui je vais aller voir ça. Tu vois?
Avec qui?
Des potes.
Ah oui, oui.
Bon truc.
Un bac de ouais. bière au fond de la salle, presque. Et Rémi sans famille, dernier film de la semaine qui, comme vous l'avez entendu à la critique de Thibaut, est le coup de déprime de la semaine. Et il y a Roma, bien sûr, qui ne fait pas partie des films qui sortent au cinéma, en tout cas officiellement. Mais il est au Cinéma Palace. Il est au Cinéma Palace ou sur Netflix à partir de vendredi, je pense. C'est le vendredi ouais. la sortie Netflix.
Ouais, ouais, il sort au cinéma ce mercredi, mais en salle sur Netflix le vendredi, effectivement, le 14.
Voilà, sur ce fut Cinécast épisode 14. On vous remercie pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine, du coup.
Mais oui, semaine prochaine et peut-être même encore celle d'après. On n'aura pas un épisode classique, mais. Mais on aura un épisode spécial de fin d'année aussi, on va
oui,
parler.
Oui, c'est ça,
on
enregistre. Il y aura un épisode la semaine prochaine. Je pense que la semaine d'après, pour les vacances, c'est moins sûr. Mais on va enregistrer un épisode spécial de Noël. Comme ça, bah oui, le jour du 25, là, vous avez un épisode Cinécast le 25, spécial Noël.
Mais il y aura aussi un. Est-ce qu'on ferait un normal pour les sorties du 26? C'est pas encore.
Est-ce qu'on en discute maintenant on record?
Ben oui, on en discute on record.
T'es disponible pour une plein de choses. Voilà.
Écoute, avec plaisir.
Avec ma sage chez Pampas. Donc, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Des bisous.
Des gros bisous.